On y va, on est à la page 34, chapitre 5, Mishnah 4. Donc on est toujours dans les takanot, dans les choses qui ont été instaurées par les chachamim, qui ne sont pas forcément liées à la halakha, mais qui ont été instaurées pour l'intérêt général. Les chachamim ont instauré la chose suivante. Mishnah Dalet en bas de la page. Yetomim shesamchu etzel balabait. D'accord ? Donc si on a des orphelins, shesamchu etzel balabait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comptent sur un baal habaït, sur un propriétaire. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a des orphelins qui sont enfants et qui n'ont pas la possibilité, bien entendu, de s'occuper eux-mêmes du patrimoine que leur père ou leur mère leur a laissé. Donc, ou bien il y a quelqu'un qui s'occupe de leur bien, ou bien le père de son vivant avait déjà nommé ce qu'on appelle un apotropos. D'accord? Apotropos, c'est un tuteur, et le père avait nommé de son vivant. Donc ça ne changera pas grand-chose, que ce soit que le père a nommé un tuteur, ou que ce soit que dans les faits il y a quelqu'un qui s'occupe, ça peut être un ami de la famille qui s'occupe des biens, du patrimoine, ça peut être un patrimoine immobilier, ça peut être un patrimoine avec des terrains. Qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? Que Chayav Leaser Perotem. Il a l'obligation, celui qui s'occupe, donc le tuteur ou le responsable de la famille, il a l'obligation de prélever le maaser, la terouma, donc de prélever le maaser, et comme la Gemara explique également la terouma, des fruits, pour éviter à ce que les enfants mangent quelque chose d'interdit. Donc on parle d'un champ ici, d'une production maison a priori, que les enfants profitent directement des fruits de leur champ, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que bien que le tuteur, il est là seulement pour s'occuper, pour s'arranger que tout va bien, il a également les obligations religieuses, ça veut dire l'obligation de prélever le maaser, sur ces fruits-là. Apotropos Sheminaou Aviyetomim. Donc un tuteur qui a été nommé par le père des orphelins, Ishava, il devra jurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le père, avant de partir de ce monde, il a nommé quelqu'un tuteur, il a dit voilà, tu seras le tuteur de mes enfants, parce que tu sais, j'ai beaucoup de biens et je ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc les enfants vont grandir, ils vont atteindre l'âge, je ne sais pas, de 13 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand ils vont arriver à cet âge-là, les enfants vont vouloir récupérer le patrimoine. Mais là, à ce moment-là, les enfants vont dire, mais qui nous dit que le tuteur n'a pas vendu une partie des biens qu'il a reçus? Qui nous dit? Peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a pu faire avec. Donc, il a une obligation de serment. D'accord? Il a l'obligation de jurer, Ishava, parce qu'il a profité que c'est les enfants, que c'était le seul. Donc, il a l'obligation de Ishava de jurer. Il doit jurer, d'accord? Donc, c'est quoi ce serment-là? Il s'appelle dans la Gemara, c'est le Shvua Betana Tsarek. Ça s'appelle un serment pour un argument de doute. C'est-à-dire que les orphelins n'ont pas de preuve ici. Ils ne disent pas, on a une preuve. Normalement, un serment se fait que quand il y a une preuve. J'attaque quelqu'un en justice, j'ai une preuve, et ma preuve n'est pas assez forte, alors je dis, dans ce cas-là, le badin dit, va jurer. Là, les orphelins n'ont pas de preuve. Ils disent, peut-être qu'il a pris, peut-être qu'il n'a pas pris. On jure quand même. Ça s'appelle une joie betana safek, on jure. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où c'est le père des orphelins, qui avait, donc le défunt, qui avait nommé ce tuteur-là. Mais, Mina ou Beddin, si c'est le Beddin qui a nommé cette personne-là, ça veut dire que le père n'a laissé personne pour s'occuper, mais une fois que le père est décédé, le Beddin a dit, il faut bien nommer quelqu'un, donc ils ont nommé quelqu'un. Qu'est-ce qu'on lui dit dans ce cas-là? Lo Ishava, il ne jurera pas. Pourquoi il ne jurera pas? Puisque, c'est très simple, puisque sinon le Beddin aura du mal à convaincre quelqu'un à prendre un... Le Beddin aura du mal à convaincre quelqu'un à devenir tuteur, parce qu'il va dire, attends, moi je veux bien faire pour les orphelins, d'accord, les pauvres ils sont orphelins, mais si après on va se retourner contre moi, on va me demander de jurer, moi je veux pas jurer. Il faut savoir qu'on jurait devant un Sefer Torah. Il dit, moi j'ai pas envie d'entrer dans ces histoires-là, je ne jure pas. Déjà je me suis galéré, donc c'est pour ça que si c'est le Beddin qui l'a nommé, Loïshava, il ne peut pas jurer. Il ne doit pas jurer. Abba Shaul Omer, Khilou Fatvarim. Abba Shaul il dit, Khilou Fatvarim, c'est le contraire. Il lui dit non. Abba Shaul dit c'est le contraire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si c'est le père des orphelins qui l'a nommé, dans ce cas-là, il ne devra pas jurer. D'accord? Mais si c'est le Beddin, là il devra jurer. Alors Abba Shaul a une manière complètement contraire de voir les choses. Il dit non. Il dit si c'est le père qui l'a nommé, il ne doit pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en vérité, s'il l'a fait, il l'a fait parce qu'il a vu que le père était angoissé avant de partir de ce monde. Donc il lui a dit, écoute, je vais m'en occuper. Et si on va réclamer un serment à ce tuteur, jamais il acceptera ce que le père demande. Alors que de l'autre côté, si c'est le Beddin qui l'a nommé, puisque il est payé pour ça et que c'est un job comme un autre, donc il doit jurer. voyez comment on peut retourner la chose des deux côtés ? On a Abba Shaoul et on a Tanakama. On a le premier côté Tanakama qui dit que si c'est le père des orphelins qu'il a nommé, là dans ce cas-là, il doit jurer, parce que c'est un job, et alors que si c'est le Beit Din qui l'a nommé, là dans ce cas-là, il ne jure pas parce que sinon le Beit Din aura du mal à trouver des tuteurs. Ça c'est Abba Shaoul. D'accord ? Ça c'est pardon le Tanakama. Abba Shaoul vient dire non, pile le contraire. Si c'est le père des orphelins qui l'a nommé, là dans ce cas-là, il ne faut pas jurer, parce que sinon le père aurait jamais pu trouver quelqu'un. Il a fait ça pour faire un chesed, pour aider le père. Mais si c'est le Beit Din qui l'a nommé, puisque c'est un job, dans ce cas-là, il devra jurer. D'accord ? Alors, j'ai perdu ma page. Ouais. Khilouf Adin, voilà. Ametame. Une personne, donc là, l'Akha est comme un bachaou. Ametame, une personne qui rend impur, d'accord ? Les choses qui rend impur, quelque chose qui appartient à son ami. Par exemple, imaginez-vous, j'ai des fruits qui sont tahor, qui sont purs, et il y a quelqu'un qui vient, qui est impur, qui vient, il les touche. Ou bien, Ametamea, quelqu'un qui rend quelque chose d'maï. C'est quoi d'maï ? D'maï, c'est une récolte sur laquelle on a un doute si elle a été prélevée ou pas. Donc par exemple, le cas qui pourrait être ici, c'est que, imaginez-vous que moi j'ai ici 10 kilos de récolte, 10 kilos de fruits que j'ai achetés, qui ont été prélevés, et il y a quelqu'un qui vient, d'accord, et qui mélange avec ces 10 kilos, 10 autres kilos, mais que eux, ils n'ont pas été prélevés. Donc du coup, on ne sait pas lesquels sont prélevés, lesquels ne sont pas prélevés. Ça s'appelle Medamea. Donc il a endommagé mes fruits. Ou bien il les a rendus impurs, ou bien il les a endommagés puisqu'il les a mélangés avec, il les a mélangés avec d'autres fruits qui n'étaient pas sur lesquels on n'avait pas prélevé le maaser. Ou bien, Vamenaser, une personne qui rend du vin Yain Neser. C'est-à-dire, il y a du vin sur lequel je préserve, on a fait des libations pour l'idolâtrie. Et il y a quelqu'un qui mélange ce vin, il rentre chez moi à la maison, il ouvre le tonneau, et il met ce vin, il met un peu de ce vin-là dans mon vin. D'accord ? Yain Neser, c'est. Il y a une nécessaire, ça rend pas saoul, d'accord ? Ça rend pas cachère tout le vin. Donc il m'a endommagé, mais il m'a endommagé spirituellement. Vous voyez la différence ? Pourquoi c'est nouveau ici ? Parce que le dommage n'est pas matériel. C'est pas un dommage matériel, il n'a pas cassé, il n'a pas brûlé, c'est un dommage spirituel. Il a rendu impur, il a mélangé avec des fruits terouma, il a mélangé du yain nécessaire, du vin sur lequel on a fait la avodah zara. Alors quel est le din ? Écoutez bien le din, Béchogeg, Patour. Si c'est Véchogeg, ça veut dire si c'est par inadvertance, il n'a pas fait exprès. Par exemple, lui s'il croyait que, la personne peut dire, moi je croyais que quand si on mélange, s'il y a déjà une récolte qui est déjà prélevée, d'accord, et que je mélange avec ça une autre récolte, ça passe avec. Il croyait. Donc c'est par inadvertance, il ne savait pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Patour, il est quitte. D'accord ? Il est quitte, ça veut dire qu'il n'a pas l'obligation de rembourser le dommage. Rembourse pas. Mais, Bémézid, d'accord, s'il l'a fait exprès, pour embêter son ami, Khayav, il est Khayav. Il aura l'obligation de dédommager. Alors, c'est très compliqué. La Gemara nous dit, comment on peut savoir si quelqu'un l'a fait par inadvertance, ou s'il l'a fait en faisant exprès? Parce que peut-être quelqu'un qui l'a fait exprès, mais qui va se dire qu'il va jouer comme si il l'a pas fait exprès. D'accord? Donc, il faut pas jurer. Donc, il faudra faire des enquêtes, ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous êtes accroché? Est-ce qu'il y a un risque qu'il a fait en faisant exprès. Il y a des enquêtes pour ça, parce que ça se passe dans la tête. Le Beit Din, l'action ne va pas changer. Comment on appelle ça ? La Gemara explique que normalement, même si on a fait Bémézide, même si on a fait exprès, quelqu'un il vient exprès et il change, donc il vient exprès et il abîme la récolte de son ami, normalement, comment il l'abîme en la rendant impure, normalement il n'aurait pas dû rembourser. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe que la Gemara nous dit que Ezek Sheno Nikar En Shme Ezek. Qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable à l'œil nu n'est pas considéré un dommage. D'accord ? C'est un principe qui est dans la Gemara. Qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable à l'œil nu, c'est pas un dommage. D'accord ? Voilà, tout ce qui est dommage, exactement. D'accord ? Après, bien entendu, il y a des choses que la Torah, par exemple. Si j'ai blessé quelqu'un et qu'à cause de ça, il a eu une honte. D'accord ? Donc c'est un dommage, c'est pas un dommage psychologique. C'est pas un dommage physique. Il a eu honte. Ça, c'est des choses que la Torah a prévues. C'est écrit. Le rapport, il rappelle, la Torah dit qu'est-ce qu'il doit payer exactement. Cheved, ripou, ça c'est la Torah qu'a dit dans Mishpatim. Mais de manière générale, rendre impur les fruits de son ami, normalement on ne devrait pas payer, même si je le fais exprès. Parce que c'est un dommage qui n'est pas reconnaissable. Pourquoi on a dit que quand c'était Bémézid, quand on a fait en faisant exprès, il faut rembourser, c'est les Chachamim qui ont instauré ça, parce qu'ils ont dit, mipnei tikkun haolam, pour l'intérêt général, parce que sinon on n'en finit plus. Quelqu'un il veut embêter son ami, d'accord, il vient et dit, voilà, je te rends impur et je suis quitte, j'ai rien à payer. Papa. pas ? On n'en finit plus sinon. Il suffit de prendre un peu de vin, je viens dans la cuve, je verse un sifflet, c'est fini. Je prends du vin et c'est fini, on n'en finit plus.
Et le battle de chichi, ça marche
ça ? Non. D'accord ? Malheureusement, non, ça marche pas.
Mais on lui applique pas ce qu'il a voulu faire ?
Non. Ah non ?
C'est pas le principe ?
Non, 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 c'était pour les dîmes de Mémie, non, non, pas du tout.
Ah, c'est
alors, à Kohanim, chez Piglou, Bamigdash, Mezidin, Chayavin. Autre cas, du même style. C'est un cas aussi, c'est un dommage spirituel, d'accord ? Des Kohanim, vous savez que le Kohen, quand on lui amène un sacrifice, si on lui amène un sacrifice, par exemple, Khatat, vous savez, les Kohanim, ils avaient un tel débit de sacrifice, ils devaient avoir la Kavana. Donc, on lui amène le sacrifice, le propriétaire lui dit, voilà, c'est un sacrifice Khatat. Donc, le Kohen, il doit penser, quand il fait le sacrifice, il doit penser que ce sacrifice-là est Khatat. Très bien. Expiatoire, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Kohen, il a fait une erreur, il a pensé à un autre sacrifice ? Au lieu de penser à Khatat, il a pensé à Ola. Le sacrifice, c'est pas soul. D'accord ? On est clair, ça s'appelle un pigoul. Pigoul, ça veut dire un sacrifice auquel le Kohen, a pensé à autre chose au moment où il doit faire le sacrifice. Il a pensé à un autre sacrifice. Et c'est pour ça que les Kohanim étaient entraînés, ils avaient un entraînement de 5 ans, et dans l'entraînement, il y avait aussi une partie qui, on les entraînait à même dans des cas de stress, d'accord, dans lesquels il y a beaucoup de sacrifices, ouais. Il ne faut pas perdre de vue le sacrifice pour lequel, enfin la raison pour laquelle on est en train d'offrir le sacrifice. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe si un Kohen, il voit quelqu'un qui amène le sacrifice, il dit tiens celui-là je vais l'embêter, et je vais changer ma pensée, au lieu de penser que c'est un khatat, je vais penser au là. D'accord ? Pourquoi il fait ça ? Comme ça il dit, comme ça il va devoir repayer un autre sacrifice.
Mais il le saura même pas, d'accord, peut-être.
Si, parce qu'après il lui dit.
Mais il va dire je te crois pas, tu fais rien que pour faire dépenser de l'oseille.
Là, il lui dit j'ai pensé à autre chose. Est-ce qu'il rembourse ou pas ? Alors s'il l'a fait sans faire exprès, est-ce qu'il rembourse ou pas ?
Mais on a dit qu'il est obligé qu'il l'ait fait exprès.
Il faut refaire sacrifice, c'est sûr. Non, peut-être qu'il l'a fait sans faire exprès.
Alors non, c'est pas le cas de...
D'accord.
À partir du moment où il donne sa bête au Kohen, c'est le Kohen qui en est responsable, non ?
Oui, mais le Kohen, il travaille dans le Beth Amidash. Il est couvert par les droits du travail.
Il a qu'à s'adresser à son assureur principal.
D'accord, alors écoutez bien. Quel est le din ? Mezidin, s'ils étaient Mezidin, ça veut dire que c'est pas fait par inadvertance, ils l'ont fait exprès, c'était volontaire. Chayavin, c'est bien, il savait qu'il allait rendre inapte le sacrifice, il a fait exprès. Chayavin, il a l'obligation de repayer le sacrifice. D'accord ? Le Kohen, il a l'obligation de repayer le sacrifice. Mais si c'était Shogeg, par exemple, le Kohen ne savait pas. Par exemple, il a oublié pour un instant qu'il fallait avoir la Kavana. Il n'a pas eu la Kavana, il a pensé autre chose, il a dit, bon, de toute façon, ça ne change rien, c'est ce qui compte, c'est qu'il a offert.
Non.
Dans ce cas-là, il ne repaye pas.
Donc il n'y a pas de garantie.
Pas de garantie.
Le savait ne marche pas.
Zéro garantie. Incroyable. Zéro garantie. Et c'est pour ça que, imaginez-vous l'honnêteté qu'on devait attendre des Kohanim. Parce que le Kohen, imaginez-vous qu'il n'a pas eu la bonne pensée. Il dit, bon, je ne dis rien, c'est tout.
Et alors ?
Eh ben, il n'y a rien. Il dit rien.
Mais
Hachem,
il va prendre
comment
Hachem.
Il peut mentir à celui qui a donné le mot, mais il ne peut pas mentir à Kadosh Baroukh Hou, donc il n'a pas intérêt.
Alors là, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Donc lui, vous comprenez, il est quand même honnête, mais il voulait embêter quelqu'un. Donc il lui dit, bon, écoute, j'ai une mauvaise cavana quand j'ai fait ton truc. Hein. Tu te rappelles, il y a 3 ans, tu as amené un sacrifice ratat. Je n'étais même pas 3 à ce moment-là, et j'ai eu une autre pensée. Qui rembourse ce sacrifice ? C'est le Kohen.
Mais il y a 3 ans ?
Quand ?
Il n'y a pas eu de Prozvoul, peut-être il y a une année sabbatique qui s'est passée depuis.
Ça ne change rien.
Ça
change rien, il doit refaire le sacrifice. C'est le Kohen qui paye le sacrifice.
Donc il n'a pas intérêt à le dire en fait.
Si, il doit le dire. Il est obligé de le dire, il ne peut même pas venir dans la nuit et offrir un sacrifice.
Non ?
Ben non, parce que c'est le propriétaire qui doit l'offrir. Quand je dis le propriétaire, ça veut dire que c'est l'auteur de la faute.
C'est-à-dire que les deux, ils ont un problème. Parce que non seulement lui doit rembourser le sacrifice,
ouais.
Et l'autre en plus, il a un préjudice psychologique, il dit mince.
Préjudice spirituel, il le sait peut-être même pas pendant des années.
Mais il apprend.
Et l'autre sur son lit de mort, le Kohen, qui a 90 ans.
Tu peux avoir un cas comme ça. C'est peut-être pas pour l'embêter, tu sais. C'est peut-être pas pour l'embêter. Peut-être qu'il le fait. Peut-être qu'il le fait parce qu'il a envie de... Peut-être qu'il le fait, par exemple, parce qu'il venait d'avoir quelque chose qui s'est passé dans sa famille, par exemple. Dieu préserve. Il venait d'avoir quelque chose qui s'est passé. Et bon, il avait la tête ailleurs. Et Khatatola, bon, il s'est trompé. Il voulait peut-être pas l'embêter.
C'est plus du fait exprès.
Si, ça s'appelle faire exprès, parce qu'il savait que c'est interdit. Il sait que c'est assourd.
D'accord.
Non, il sait que c'est assourd, il sait qu'il faut penser au khatat. Ça s'appelle un mézid, hein.
Ouais.
Ah oui, bien sûr, ça s'appelle un mézid. Shogeg, c'est ne pas savoir la halakha.
C'est une erreur.
Shogeg, c'est pas une erreur.
Un Kohen qui est en place, il sait la halakha.
Shogeg, c'est le... Voilà, peut-être qu'il a oublié la halakha. Shogeg, c'est ne pas savoir la halakha. Mais s'il savait la halakha, mais qu'il y a d'autres circonstances atténuantes, ça s'appelle quand même mézid, hein.
Ah ouais.
Bien sûr. À 100%.
Mais non, mais ton histoire de...
Mais il
de...
s'est trompé.
Non, ça ne change pas.
Mais...
Même dans Shabbat, d'accord, qu'est-ce qu'on appelle Shogeg? Le Shogeg qu'on appelle en général, c'est Shogeg, ça veut dire que, quand on dit qu'on fait une Avera Shogeg, ça veut dire que je ne savais pas que c'était interdit.
Alors attends,
dans
je
cette
sais...
figure, c'est
il y a d'autres cas de figure dans Shabbat.
Alors écoute bien.
Dans cette figure, c'est impossible. Un Kohen qui est en place dans le Beth Amidash, il ne peut pas être Shogeg. Il peut être Shogeg. Il est censé connaître la guerre. La fin, il a été étudié.
Peut-être qu'il a oublié. Il a oublié, c'est possible.
Il a oublié. Oui. Écoute, moi,
il a oublié les détails. Il a oublié. Parce que dans les khatat aussi, il y a plusieurs catégories de khatat, d'accord. Il a oublié. Il a pensé autre chose. Ou bien il a oublié.
Un jour, en nuit de Shabbat, je me suis réveillé. J'étais tellement abruti. Je vais aux toilettes. Et quand je sors des toilettes, je me mets en tête d'éteindre la lumière. Je savais que c'était Shabbat. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là, elle ne veut pas éteindre la lumière. Je me suis battu avec le scotch, mais à la fin, ah. Et puis après, je suis allé au lit et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais j'ai éteint la lumière. Et je me suis même battu avec le scotch, je l'ai enlevé. Comment on appelle ça? Les shogeg ou bébé?
Vous avez oublié que c'était Shabbat.
Mais quelque part, je le savais, mais c'était mon
non,
esprit,
pas quelque part, non, quelque
second,
part, non.
Qui disait, bah, tu laisses pas la lumière allumée, c'est ridicule.
Non, c'est un shogeg, ça, parce que vous avez oublié que c'était Shabbat. Ah oh, bah oui, si avec le scotch et tout, vous avez pas vu, c'est que vous étiez ailleurs. Hein. À moins que vous êtes révolté, mais ça, c'est que vous...
C'est son hyper qui s'est révolté.
Après, je me dis, mais je me suis battu, parce qu'il y avait du scotch, tout, pour pas que... Parce
oui,
que
il a dû...
Pour éviter les erreurs, tu comprends.
Il a oublié que c'est Shabbat.
Tu comprends? Et je me dis, c'est quoi?
C'est quoi? C'est la personne qui dit, bah, c'est grave, je sais que c'est Shabbat.
Je m'en fiche. Ouais, je m'en fiche. Hop, je zappe. Alors, maintenant, on passe à la Mishnah. C'est la cinquième Mishnah.
Un rachat.
Vous voulez pas vous approcher, monsieur Benichou? Hein? Alors, on va parler dans cette Mishnah de Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Rabbi Yochanan ben Gudgoda a vécu à l'époque de la destruction du second temple. D'accord? Il était ensuite dans la ville de Yavné, et dans cette ville-là, il a témoigné devant les Chachamim sur plusieurs halakhot qu'il a entendues au nom de ses maîtres. Ces halakhot-là sont enseignées dans notre Mishnah. D'accord ? Mais il faut savoir que, en vérité, notre Mishnah, c'est une Mishnah qui est reprise du traité Edouyot. C'est là-bas que la Mishnah est entière. Là, ici, on n'a qu'une partie de la Mishnah. Donc voilà les halakhot que Rabbi Yochanan ben Gudgoda a témoigné devant les Chachamim. Il a dit, voilà, je me rappelle... des halakhot que j'avais appris avant que le Beth Midrash était détruit. Donc, Eïd Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Rabbi Yochanan, fils de Gudgoda, a témoigné sur les halakhot suivantes. Alachei Reshet. Alachei Reshet, ça veut dire sur une femme qui est sourd-muette. D'accord ? Ça veut dire donc, qui, ni elle entend et ni elle parle. C'est ce qu'on appelle Cheresh dans la Torah. Chez Sia Avia, que son père l'a mariée. Ça veut dire qu'elle était encore petite. D'accord ? Elle était encore petite, elle n'avait pas encore 12 ans. Et son père l'a mariée. Son père l'a mariée, il a reçu de l'argent pour la marier, donc bien entendu, c'est une femme mariée. Très bien. Chez Yotza Baguette, qu'est-ce qu'il a témoigné? Il a témoigné que puisqu'elle s'est mariée par son père, et que son père avait toute sa tête, parce qu'on considère que quelqu'un qui n'est ni quelqu'un qui ni il entend, et ni il parle, on considère qu'il ne peut pas avoir toute sa tête. C'est pas possible, il manque des éléments, il peut pas... Pardon?
Vous l'avez vu des choses?
Oui. On considère qu'il ne peut pas communiquer à 100%, donc il peut pas avoir toute sa tête. Donc... Le problème qu'on a ici, c'est quoi? C'est que le mariage était bon. Le mariage n'avait aucun problème, puisque le mariage a été fait par son père, et son père est quelqu'un de conscient. Qu'est-ce qu'il a témoigné Rabbi Yochanan ben Gudgoda? Chez Yotza Baguette, ça veut dire que c'est elle-même, imaginez-vous qu'à 13 ans, d'accord, elle veut 13 ans, 14 ans, elle veut divorcer, c'est elle-même qui recevra son guette. Bien qu'elle est sourd-muette et qu'elle n'a pas de date, elle n'a pas de connaissance, puisque, de toutes les façons, on a le principe qu'une femme peut être divorcée, même contre son gré. Alors aujourd'hui, avec Rabbeinu Gershom et Orangola, ça a changé, d'accord? Il y a 1000 ans, ça a changé, mais à la base, si on voit le din de la Gemara, une femme peut être divorcée contre son gré. Donc il a instauré que puisque de toutes les façons, une femme peut être divorcée contre son gré, et donc même si on n'a pas le gré de la femme, d'accord? La femme n'est pas d'accord, elle peut pas être d'accord puisqu'elle n'a pas de date, ça ne change pas. Puisque la femme, on n'a pas besoin de son gré, donc automatiquement, qui c'est qui la divorce? C'est la femme est divorcée directement. Ça, c'est la première chose qu'elle témoignait. Ve'al Ketana bat Israël chez Niset le Kohen. Il a témoigné également sur une Ketana. Donc Ketana, c'est quoi une Ketana? Ça veut dire une petite fille, bat Israël. Donc une petite fille, ça veut dire qu'il y a moins de 12 ans. Bat Israël, fille d'Israël, ça veut dire normal, elle n'est pas Kohenette, rien du tout. Chéniset les Kohen qui s'est marié avec un Kohen. D'accord ? Qui s'est marié avec un Kohen. Donc elle s'est mariée avec un Kohen. Donc c'est vrai que c'est une femme mariée. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Chez Ochelet Batruma, qu'elle peut manger la terouma, toute la terouma, même la terouma des Chachamim, c'est même la terouma qui a été instaurée par les Chachamim. D'accord ? Et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Immeta, et si elle est morte, si elle est décédée, donc cette fille-là, cette petite fille-là, qui n'est pas encore grande, qui appartient à son père encore en vérité, si elle est décédée, Baala Yorsha, c'est son mari qui va l'hériter. Bien que normalement, il faut savoir qu'alachiquement parlant, selon la Torah, ça ne devrait pas être le cas. Alachiquement parlant, tant qu'elle n'a pas 12 ans, tous ses biens appartiennent encore à son père. Vous suivez ? Alachiquement parlant, tant qu'elle n'a pas 12 ans, tous ses biens appartiennent encore à son père. Et c'est les Chachamim qui ont instauré. Les Rachamim ont instauré que, ils ont appris d'un pasouk de la Torah, mais bon, c'est eux qui ont instauré, que c'est le mari qui va hériter. Autre chose qu'il a témoigné Rabbi Yochanan ben Gougeda. Vela Merish Agazul. D'accord ? Bon, alors, normalement, on a un principe que quand on vole quelque chose, il faut rendre l'objet qu'on a volé, s'il existe toujours. Vous suivez ? Par exemple, si j'ai volé un livre, il faut que je rembourse ce livre-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne a volé une poutre chez son ami ? Et cette poutre, il l'a utilisée pour construire un bâtiment. Il a construit un bâtiment. D'accord ? Bon. Ensuite, il fait teshuva. Il fait teshuva, ou bien...
je veux cette poutre.
Ensuite, il fait teshuva, ou bien il se fait attraper. Il se fait attraper, quelqu'un il vient, il dit, ah, mais c'est ma poutre. Il reconnaît sa poutre. Normalement, le principe qu'on a, c'est qu'il faut rendre l'objet qu'on a volé. Tant que l'objet qu'on a volé existe, il faut le rendre. L'objet qu'on a volé, pas la valeur. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que, ici, s'il va vouloir rendre l'objet qu'il a volé, il va perdre son bâtiment. Et alors, on va dire, bah oui, il a qu'à perdre son bâtiment, qu'il a demandé de voler. Le problème qu'on a, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle Takanat Hashavim. C'est que si tu dis à une personne comme ça, tu lui dis que s'il a volé la poutre, il devra rendre la même poutre, donc il devra détruire son bâtiment, cette personne-là, jamais voudra faire teshuva. Parce qu'imaginez-vous, un jour, il a envie de faire teshuva, il dit, bon, j'ai envie de rembourser. D'accord ? Mais dès qu'il va se rappeler, il va dire, oui, mais pour rembourser, il faut que je casse mon bâtiment. D'après vous, il va faire teshuva ? Non, il ne fera pas teshuva, il dira, bon, écoute, je peux pas, c'est trop dur. Donc pour la takana, pour l'intérêt général, donc pour permettre aux gens de faire teshuva plus facilement, c'est intéressant, c'est très spécial comme type de takana, qu'est-ce qu'on a instauré ? On a instauré que si il se fait attraper ou s'il veut rendre, il n'a pas besoin de rendre la poutre, mais il peut rendre la valeur de la poutre. Ça, c'est, normalement, selon la Torah, c'est pas le cas. Donc, Vala Merish Agazul chez Bnao Babira, sur un Merish, donc un Merish, ça veut dire une poutre, qui a été volée chez Bnao Babira, qui l'a construit Babira, dans un grand bâtiment, chez Ital Adamav, donc chez Ital Adamav, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les Rachamim ont instauré que le propriétaire, donc celui qui s'est fait voler, reprendra ses sous, d'accord, mais pas, donc il se fait rembourser en argent, mais pas avec cette poutre-là, mais peut-être Takanat Hashavim, pour la Takanat Hashavim de ceux qui veulent faire Teshuvah. Autre chose. Ve'alachatat agzula. Alors, imaginez-vous maintenant, un animal qui a été volé, qu'on a offert sur le Mizbéach en tant que sacrifice. Khatat. Le gars, il voulait se faire pardonner sur une faute. Il a volé un...
Il voulait se redonner de la faute qu'il a D'accord. volé la poutre.
Alors, chez l'Olnod Al Arabim, par exemple, il a transgressé le Shabbat. Comme c'est un bon voleur, il se dit, bon, les animaux, je les ai à l'œil. D'accord ? Donc, vers la khatat akzula, chez l'onod al arabim. Sur la khatat, donc un sacrifice qui a été volé, chez l'onod al arabim, mais les gens ne le savent pas encore qu'elle a été volée. Et lui, il l'a déjà offert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça pardonne ou pas ? On va dire, mais non, bien sûr, ça pardonne pas. Chez Imicha Peret, elle pardonne sur ses propriétaires. Et ils n'ont pas besoin d'un autre sacrifice.
Sauf s'il y a un pigoule.
Pourquoi ? Écoutez bien, non. Pourquoi ? Mipnet tikkun amizbeach. Mipnet tikkun amizbeach, d'accord ? Pour le tikkun du mizbeach du sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous ce que les Kohanim vont penser. Les Kohanim vont dire comme ça. Vous savez que on a le droit de manger au Beit Hamikdash. Les Kohanim avaient le droit de manger au Beit Hamikdash seulement de la viande qui est kadosh. Ils n'ont pas le droit de prendre un beefsteak de chez eux et le manger au Beit Hamikdash. Très bien. Les Kohanim, imaginez-vous les Kohanim. Les Kohanim vont se dire oui. On nous amène un sacrifice, mais peut-être ce sacrifice est volé, et que personne ne le sait. Si le sacrifice est volé et que personne ne le sait, ça veut dire que ce sacrifice-là, en vérité, c'est pas un sacrifice kadosh, c'est un sacrifice qui est chol. On l'a peut-être brûlé sur le misère, mais c'est un sacrifice qui est chol. Donc ça veut dire qu'on va manger de la viande kadosh, on va manger de la viande chol dans le bâtiment d'Igdash. Imaginez-vous le... Ah non, pas sanctifié? Ben non, il peut pas être sanctifié puisqu'il est volé. Il est volé, donc il peut pas être sanctifié. Imaginez-vous le sentiment des Kohanim.
On comprend justement pourquoi il peut se tromper de tout à l'heure. Là,
imaginez-vous le sentiment des Kohanim. Les Kohanim, ils voudront plus travailler, ils vont dire, attends, si on est, je suis pas plus juif et des voleurs, si maintenant je sais pas ce qui a été volé, ce qui n'a pas été volé, moi je travaille le Beth Amigdash. Pour éviter que ce genre de choses arrivent, que les Kohanim soient dégoûtés, on a dit qu'il faut savoir que le khatat, de toutes les façons, il sera considéré un bon khatat. Ça veut dire que l'offre expiatoire sera considérée une bonne offre expiatoire. Bien sûr qu'il faudra rembourser l'animal, c'est sûr. Mais les Chachamim ont décidé de dire que le sacrifice sera un bon sacrifice. C'est une takana que les Chachamim ont instaurée. D'accord ? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que la Mishnah suivante est assez longue, on n'aura pas le temps de la terminer. Voilà.
Alors qu'il y avait le Beth Midrash, il y avait la présence d'Yin en place. Comment les gens sont osés faire ce genre de choses et donc ce qui a engendré la création de la Chod?
Tu crois que les gens y fautaient pas?
Avec les conséquences que ça peut
avoir. On s'habitue, si tu veux. On s'habitue à tout.
Aujourd'hui, je comprends, mais à l'époque.
Malheureusement, le cerveau, l'homme s'habitue à tout.
Dans la Mishnah qui est juste après, il y a écrit la loi, oui. N'a même plus cours.
Il y a beaucoup de takanot. Bien sûr, on a eu des, gens qui ont fait rentrer des idoles dans le Beth Amigdash. Malheureusement, on s'habitue avec le choix du Beth Amigdash. Une fois qu'on s'habitue, après on peut faire des bêtises. Voilà, ça reste ici pour aujourd'hui.